Et je réussissais à couper les cheveux de la main gauche comme je pouvais réussir à couper de la main droite. Du coup, ça leur posait problème pour eux, pour m'apprendre. Heureusement qu'il y avait vraiment Instagram et YouTube pour vraiment me montrer comment fallait faire.
Bonjour Anaëlle.
Bonjour.
Et bienvenue sur mon podcast Les Jeunes Prennent le Micro. C'est un podcast qui donne la parole à vous, donc les jeunes. Merci d'être présente.
Merci.
Alors tout d'abord, si tu pouvais te présenter en quelques mots, donner ton âge, quelles études tu as fait, en quelle année peut-être tu es, etc. Tu nous recontextualises tout ça.
Ok, donc du coup je m'appelle Anaëlle Travaillé, j'ai 25 ans. J'ai réalisé des études de coiffure après avoir obtenu un bac général. J'ai terminé mes études l'année dernière et là actuellement du coup je travaille à temps partiel à côté du projet mais du coup dans un job alimentaire pour pouvoir essayer de gérer l'emploi du temps comme je peux et sinon je suis du coup étudiante entrepreneur à l'IGR à Rennes.
Ok, ça marche. Donc pour toi, qu'est-ce que ça veut dire le métier de coiffeuse, coiffeur ?
Pour moi la coiffure c'est un métier qui permet de prendre soin des gens, de les rendre beaux et aussi de leur rendre confiance en eux. Des fois, ça peut leur arriver qu'ils ne se sentent pas bien et du coup, le fait de se faire coiffer, généralement, ça leur redonne un petit boost de confiance. Donc, je dirais ouais, c'est plutôt quelque chose qui va pour aider les gens à se sentir mieux dans leur corps.
Oui, c'est vrai. Et pourquoi tu as choisi ce cursus et ce métier-là ?
En fait, ça m'a toujours intéressée de la coiffure depuis que je suis toute petite. Au début, j'avais du mal à savoir comment j'ai pu aimer la coiffure. Et en fait, j'ai revu la coiffeuse de quand j'étais petite. Et elle m'a dit, mais Annette, t'étais toujours en train de regarder les livres de coiffure, à sentir les produits. À chaque fois que tu rentrais, que ta mère allait se faire coiffer, tu faisais aussi. Tu étais tout le temps à regarder tout ce qui se passait. Donc du coup, je pense que j'ai commencé à aimer la coiffure du coup, dès que j'ai commencé à me faire coiffer quand j'étais petite et en accompagnant ma mère du coup.
Ah ouais, donc c'était depuis toujours, quoi.
Ça a toujours été depuis l'enfance.
Ok, ça marche. Et par exemple, pour celles et ceux qui nous écoutent là et qui veulent se tourner vers les métiers de la coiffure, quelles sont les perspectives de débouchés du métier ?
Du coup, il y a plusieurs perspectives suivant le cursus que tu fais. Soit tu peux décider de faire un cursus du coup, classique avec le CAP, la mention, le BP, voire le brevet de maîtrise. Là, du coup, tu peux travailler en salon de coiffure. Mais après, tu peux aussi devenir prof. Au CFA ou en école de coiffure. Et après, il y a aussi le BTS métier de la coiffure, où c'est tous les métiers de la coiffure, mais sans spécialement coiffer. Donc, il peut y avoir du management, donc la gestion de salons de coiffure, mais aussi de la création de salons en essayant de créer des espaces, en fait. Ensuite, on a aussi des cours de tout ce qui est de marketing, etc. Donc, on peut travailler dans ces pôles-là, on va dire, de marketing, de gestion, de management. Après, c'est mieux aussi de faire des formations complémentaires ou si c'est en alternance, d'être directement dans ce genre d'entreprise pour vraiment pratiquer sur le terrain. On peut faire de l'audit aussi, travailler en laboratoire, être technico-commercial. Il y a vraiment plein de choses à faire avec ce métier.
Ah ouais, donc ça balaie assez large en fait. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte en fait que le métier de la coiffure, c'est hyper large et que ça... Tu vois, je viens d'apprendre quelque chose avec l'audit,
oui,
justement.
C'est vrai, il y avait des personnes de mon cursus, en fait, qui ont dû faire des... Enfin, quand on a fait des stages, c'est là où on se rend compte, en fait, des entreprises auxquelles on peut accéder. Et c'est là qu'on se rend compte, bon, finalement, tel secteur, je peux l'acquérir. Et c'est pareil pour tout ce qui est artistique. On peut aussi travailler dans tout ce qui est artistique, donc du coup, pour les défilés de mode et ce genre de choses.
Il y a des concours aussi de coiffure.
Oui, il y a des concours de coiffure. Il y a tout ce qui va être les meilleurs apprentis de France, meilleurs ouvriers de France. Et aussi, il y a des concours, par exemple, des coiffeurs qui lancent des concours comme Raphaël Perrier. Moi, j'ai pu participer du coup à ce concours et c'est vrai que c'est là où on peut se faire aussi remarquer. Et c'est aussi une manière d'être, on va dire, créatif. Parce que vraiment, c'est un métier aussi qui est créatif et qui permet aussi de créer des choses, en fait, un univers juste avec des cheveux. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et peut-être trop peu connu, là, tu as un peu balayé le sujet, mais quelles sont les études pour devenir coiffeur ou coiffeuse ?
Du coup, soit on peut partir dès la troisième, et du coup, on peut faire un CAP, une mention complémentaire et un brevet professionnel. Après, la mention complémentaire, elle n'est pas obligatoire. C'est vraiment si on a des fois des petites lacunes ou ce genre de choses, où on ne se sent pas capable de passer directement à l'étape supérieure en brevet professionnel, il est mieux de faire une mention entre les deux. Et ensuite, après le brevet professionnel, on peut soit partir en brevet de maîtrise, et là, du coup, on est maître artisan, ou alors faire un BTS métier de la coiffure. On a les deux options. Et sinon, le BTS métier de la coiffure, il peut se faire directement après le bac général.
Ok, et toi, t'as fait...
Moi, j'ai fait CAP, mention, BP et BTS, mais j'ai fait directement après avoir obtenu un bac, parce que j'avais visité des écoles en troisième, du coup. Et en fait, les profs, ils voyaient bien que j'étais pas prête à aller à l'internat où je savais que ça allait pas le faire à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai décidé de faire une générale et puis de partir en coiffure après.
Ok, ça marche. Ok. Et quelles sont les qualités à avoir justement pour rentrer dans ce genre de métier ?
Déjà, je pense qu'il faut être, enfin, faut aimer les gens, faut être à l'écoute aussi des personnes, parce qu'il faut quand même qu'on fasse une coupe de cheveux, une couleur qui corresponde à l'envie de la cliente, mais aussi à ce qui est possible de faire. Ensuite, je dirais aussi, il faut aussi savoir prendre du recul, parce que comme on peut facilement avoir de mauvais retours ou ce genre de choses, donc il faut sans cesse se remettre en question, et aussi avouer que des fois on peut faire des erreurs, parce que ça peut arriver. Et c'est surtout que les tendances, ça vient très très vite, donc il faut savoir vraiment s'actualiser en permanence sur toutes les nouvelles techniques qui puissent exister. Et pareil, à l'écoute, faire de la fidélisation clientèle ou ce genre de choses, tout ce qui est relationnel, ça s'acquiert au fur et à mesure.
Oui, bien sûr.
Parce que moi, au tout début, quand je suis rentrée dans la coiffure, j'étais incapable de mettre une serviette et un peignoir à un client.
C'est
vraiment, j'étais tellement, je me cachais derrière le bac ou dans la réserve, parce que j'avais peur des clients.
T'étais timide.
J'étais timide. Et au fur et à mesure, j'arrivais à mettre le peignoir à serviette. Ça peut paraître bête, hein, mais rien que de dire bonjour et de mettre le peignoir à serviette, c'était vraiment beaucoup pour moi.
Ah ouais, comme quoi. Donc ça s'est appris sur l'expérience.
C'est ça, au fur et à mesure. Et puis c'est bien aussi parce que les clients voient notre évolution dans l'année. Et du coup, moi, c'est vrai qu'on m'avait fait des réflexions en disant « Ah, ta posture, tu te tiens mieux, t'es moins renfermé sur toi-même, t'as de la discussion, donc du coup, c'est bien. »
Parce que du coup, avec tous ces diplômes que t'as accumulés, t'as fait plusieurs fois plusieurs stages dans des salons, dans autre chose.
Oui, du coup, moi, mon CAP, c'était en école, donc du coup, j'ai fait dans deux salons différents.
Ok.
Ensuite, après, je suis partie en apprentissage, mais je suis restée dans le même salon de coiffure. Et ensuite, quand j'ai fait le BTS, du coup, j'ai travaillé en tant que conseillère vendeuse dans un magasin grossiste.
Ok, ça marche.
Et là, c'est pareil, je me cachais un peu dans les rayons. Et après, au fur et à mesure, j'arrivais à aller dans le magasin et à vraiment bien accueillir les personnes sans avoir peur de les conseiller. Et c'est surtout que j'avais fait mon stage et j'ai été prise directement à travailler l'été.
C'est cool.
Et donc, du coup, j'avais été mise directement à faire les ouvertures et les fermetures toute seule. Donc, pas de choix, quoi. Donc, il faut y aller.
Dans le brin.
C'est ça. Mais en vrai, je trouve que c'est bien. Après, c'est vrai que quand des fois, il y a trop de clients, ça peut aussi nous prendre toute notre énergie. Donc, c'est là où des fois, c'est comme les gens qui travaillent dans le commerce. Au bout d'un moment, trop de clients tuent, entre guillemets, le client.
Ouais.
Et du coup, chez nous... recharger un peu les batteries, quoi, parce qu'on reçoit quand même beaucoup d'infos.
C'est ça, tu rentres à la maison exténuée, quoi. Ok, ça marche. Alors, depuis janvier 2023, aucun diplôme n'est requis pour ouvrir son salon de coiffure. T'en penses quoi ?
Moi, je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression qu'on décrédibilise le métier, en fait. Enfin, on a des diplômes, mais c'est pas pour rien. Parce que chaque diplôme, on va acquérir des compétences, comme le CAP, on commence tout juste les applications couleurs ou comment rouler la permanente. C'est qu'à partir du BP, généralement, on peut vraiment le pratiquer au salon. Et de base, en fait, fallait absolument que dans un salon de coiffure, il y ait une personne qui a un brevet professionnel tout au long de l'année. Même quand il y a des personnes qui partent en vacances, en fait, il faut absolument qu'il y ait une personne qui ait le brevet professionnel, parce que c'était le diplôme à avoir pour pouvoir ouvrir
salon
de coiffure.
Je fais le parallèle, c'est comme en pharmacie, en fait. Il y a des préparateurs en pharmacie et il y a le pharmacien ou plusieurs pharmaciens en fonction des statuts qu'ils ont dans leur... C'est une entreprise, hein, une pharmacie. Et en fait, la pharmacie peut être ouverte seulement si un pharmacien est présent, en fait. Le préparateur en pharmacie ne peut pas être que là. Donc c'est comme ce que tu dis avec le brevet.
Par rapport, parce que, en plus, surtout qu'on utilise des produits chimiques.
Ah, ouais.
Et du coup, c'est là où ça pose problème, parce que en fait, les gens ne se rendent pas compte du danger qu'il peut y avoir en utilisant une coloration ou une permanente, parce que ça va, c'est coiffure, c'est un peu ouvert à tout le monde. Bah non, parce que ça s'apprend et ça peut faire des gros dégâts sur le cuir chevelu. Et donc, du coup, je trouve ça un peu dommage, parce que on a des diplômes et c'est pas pour rien qu'ils sont présents. Et j'ai l'impression que ça laisse un peu porte ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder à la coiffure, alors qu'il faut quand même apprendre certaines techniques. Enfin, même s'il y a une formation, il faut quand même. Il faut vraiment avoir quand même pas mal de compétences.
Une question qui me vient juste là par rapport à ça, c'est que vous êtes régi par une réglementation distincte pour les métiers de la coiffure, ou c'est simplement à l'obtention du brevet qu'on est métier de la coiffure, et ensuite on est responsable de son salon, quoi.
Par exemple, les boulangers, ils ont leur propre réglementation, la coiffure, ils ont leur propre réglementation, comme ça va être indiqué par exemple pour les nombres de congés, les diplômes. Il va y avoir aussi sur l'utilisation de certains produits comme la permanente, il faut qu'il y ait un certain pourcentage par exemple pour un ingrédient. Donc, du coup, tout est vraiment réglementé.
Pour un ingrédient toxique, par exemple.
Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait un pourcentage pour les professionnels à utiliser.
Ok, ça marche. Ok, donc c'est assez spécifique au métier de l'artisanat, finalement.
Oui, c'est ça.
Ok, ça marche. Et selon toi, quels sont les avantages du métier ?
Les avantages du métier, je dirais que on a l'impression que les journées se ressemblent, parce qu'on coupe des cheveux, on fait une application couleur, on fait des balayages. Le truc, c'est que tout est différent finalement, parce que chaque personne est différente. Donc chaque coupe ne va pas être la même à une personne à une autre. Ça permet aussi d'être créatif, du coup. Et aussi même de discuter des fois avec les gens. On apprend énormément de choses. Il faut qu'on soit quand même capable de parler à un enfant comme à une personne qui est très âgée. Donc du coup, on est vraiment ouvert à tout le monde. Et aussi... je dirais qu'en qualité, on s'ennuie jamais.
Ok, ça marche. Tant mieux. A contrario, est-ce que tu as identifié des inconvénients ?
Oui, les inconvénients, je pense que je dirais quand même... je dirais que psychologiquement, ça peut paraître dur. Je sais, par exemple, il y avait une semaine où il y avait eu 3 enterrements. Et sur le moral, même si ça ne nous concerne pas, que ce n'est pas des membres de notre famille, la semaine a été très dure. Juste parce qu'on avait appris qu'il y avait plusieurs enterrements dans la semaine. On est un peu des éponges, on va dire, quand il y a quelque chose qui se passe pas mal pour une personne, on est un peu les confidents. Et donc, du coup, des fois, ça fait beaucoup à absorber. Donc, je pense que c'est là où c'est un peu plus, des fois, compliqué. Donc, c'est pour ça que des fois, trop de clientule, quand on a tellement d'informations, qu'on a un peu le rôle de psychologue par moment. Donc,
ouais.
Du coup, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Après, j'irais aussi les postures, parce que soit on est debout, on est assis, on a des mauvaises postures. Donc du coup, ça peut créer des troubles musculo-squelettiques, notamment au niveau des poignets ou ce genre de choses, les épaules aussi. Donc j'irais quand même, ça demande une bonne condition physique. À faire des brochings quand même, ça fait les bras, donc c'est du sport. Et après, c'est vrai, oui, les horaires de travail, parce que forcément, après, c'est comme dans tous les métiers, vu qu'on travaille quand même toute la journée. Et en plus, on travaille les samedis, on travaille les week-ends, on travaille au jour de fête, on travaille pour tous les événements. Donc c'est là, je pense, où c'est un peu plus compliqué, parce qu'on ne peut pas spécialement profiter du coup de la famille. Et c'est pour ça que justement, il y a beaucoup de salons qui ferment les samedis, justement pour pouvoir aussi profiter de leur famille. Et pareil, à Noël, on travaille le 24. Ensuite, il y a le Nouvel An, on retravaille le 2. Donc, c'est vrai que je pense que c'est là aussi où ça peut être des fois un peu plus compliqué.
Parce que c'est un métier prenant, finalement.
C'est un métier prenant. Et maintenant, en plus, il y a tellement de concurrence. Et entre... du coup, je pense qu'aussi pour les personnes, c'est un peu dur, parce qu'il y a tellement de monde sur le marché dans la coiffure que du coup, je pense que c'est maintenant beaucoup plus difficile de se démarquer et de fidéliser la clientèle, parce que avant, les gens étaient vraiment fidèles à leur coiffeuse, alors que maintenant, les gens, ils ont une mauvaise expérience ou une coupe qui est un peu ratée, ou je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, tout de suite, la personne, elle va aller voir ailleurs. Donc, je pense que c'est là où c'est un peu plus compliqué, ça va être de vraiment fidéliser la clientèle et de se démarquer de la concurrence.
Ok, hyper intéressant. et selon toi, quel est l'avenir pour le secteur de la coiffure, par exemple, dans 10 ans ?
Déjà, j'aime bien le fait que là, maintenant, on voit bien que sur les réseaux sociaux, enfin, moi, en tout cas, je regarde énormément de choses de coiffure, et on voit bien que, qu'il y a vraiment des... que les coiffeurs se spécialisent dans une technique, par exemple. Ils sont, s'il y a des personnes qui sont très douées dans le balayage, ils vont faire que du balayage, ça va être leur spécialité. Il y a des personnes qui vont être très douées dans tout ce qui est barbeur, ça va être leur spécialité. Du coup, je trouve ça bien aussi d'accentuer le fait de... Enfin, on est fort dans un milieu et donc du coup, on, bah, les gens vont venir nous voir juste parce que c'est notre spécialité. Et aussi, on tend vraiment à une cosmétique un peu plus saine, on va dire, déjà dans l'utilisation de certains produits qui sont de plus en plus naturels. Pareil, quand je vois en termes de produits capillaires, ça avance aussi dans le bon sens avec des meilleurs produits, des meilleurs... une meilleure efficacité aussi sur le cheveu. Et en fait, la mode, c'est un peu un éternel recommencement. Donc du coup, je pense qu'il va toujours y avoir des nouvelles tendances, toujours avoir du renouveau dans la coiffure. Et là, je sais qu'il y a beaucoup, on prend de plus en plus soin dans tout ce qui va être spa capillaire ou ce genre de choses, où on tend vraiment à accentuer sur la détente des personnes et vraiment prendre bien soin d'eux du début jusqu'à la fin, d'instaurer vraiment un rituel pour les personnes.
Ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu améliorerais ou tu changerais sur la situation actuelle des métiers de la coiffure pour que ça tende comme tu l'as dit, à l'idéal dans 10 ans.
Moi, je dirais l'apprentissage, il faut commencer par là parce que c'est vrai qu'on va tous dans un salon de coiffure. Et moi, je sais que, par exemple, quand je suis arrivée, malheureusement, il y a eu le Covid quand j'étais en brevet professionnel. Donc, du coup, c'était un peu compliqué pour ma patronne. Et en fait, on arrivait à avoir les nouvelles tendances, notamment pour les coupes-hommes. C'était à ce moment-là qu'arrivaient tout juste les dégradés américains et ce genre de choses. Et vraiment les balayages avec les patines. Et en fait, c'était resté à l'ancienne. Et donc, du coup, ça posait problème parce que du coup, ça ne me permettait pas d'évoluer. Et pareil, vu qu'elle m'avait un peu abandonnée, entre guillemets, dans mon apprentissage, par exemple, si on me demande de réaliser un carré plongeant, je suis incapable de le réaliser.
Ah ouais?
Parce que du coup, j'ai pas appris à le réaliser, donc je dirais que ça passe quand même par l'apprentissage et vraiment la manière de transmettre les choses, parce que du coup il y a toute une génération qui va partir, ça va être toute une nouvelle génération qui va arriver sur le marché, et donc forcément il faut que ces personnes aient la matière pour pouvoir exercer correctement le métier.
Ouais.
Donc du coup je dirais que ça passe directement par l'apprentissage pour améliorer. Et sinon je dirais peut-être plus pour les conditions de travail ou ce genre de choses, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dégoûtés du milieu.
À ce point.
Et je sais qu'il y en a qui disaient, moi, si ma fille me dit d'être coiffeuse, je lui dirais non, de trouver un autre métier. Donc, du coup, j'irais vraiment de travailler là-dessus. Comme je vous disais, on absorbe énormément de choses. Et si déjà, en plus, au sein du salon, ça se passe pas bien, je pense qu'il y a une accumulation sans qu'on s'en rende compte. Donc vraiment, je dirais de faire en sorte que les coiffeurs se sentent mieux à travailler et puissent exercer librement leur métier.
Ce qui est totalement normal, voilà. En fait. et justement, je vais revenir sur le moment où tu as dit qu'effectivement, tu t'es sentie un peu délaissée lors de ton apprentissage. C'était vraiment par rapport à la période Covid ou c'était la personne en tant que telle qui était ta maître de stage?
Oui, parce que j'ai commencé en mention et en fait elle avait fait une technique qui pourra fonctionner parce qu'en fait il faut tout le temps ramener des modèles et c'est pas possible. Moi j'avais 40, enfin ma famille avait 40 minutes de route pour aller se faire coiffer, donc et avec leur emploi du temps c'est pas spécialement facile, il faut dégager du temps pour emmener des modèles. Et ce qu'elle avait trouvé en fait, c'est qu'il y avait une cliente qui me servait de modèle pour que je puisse m'entraîner à enrouler des permanentes, et en contrepartie moi je lui réalisais son brushing de la semaine. Donc du coup ça me permettait de m'entraîner et en même temps la cliente était contente parce qu'elle avait son brushing. Et du coup, en faisant ça, ça permettait aussi à ma patronne de me laisser coiffer cette personne-là qui, de base, n'aimait pas trop les apprentis.
D'accord.
Donc du coup, ça permettait aussi de pouvoir, eux, leur dire, tiens, maintenant, tu es capable de t'occuper de tel client, donc je vais te laisser en autonomie. Dès qu'il y a besoin de faire son brushing, c'est toi qui va réaliser son brushing. Donc, du coup, il y avait ça. Et après, bah, forcément, en fait, il y a eu le Covid. Et en fait, de locataire, elle passait à propriétaire. Elle a changé de salon. Et donc, du coup, je pense qu'aussi financièrement, il y avait une crainte avec le Covid. Et donc, finalement, elle se rend compte qu'avec le nouveau salon, il y avait énormément de clients et beaucoup plus qu'avant. Donc, du coup, c'était beaucoup plus difficile à gérer la clientèle. Et en fait, bah, les clients s'enchaînaient. Et au final, j'apprenais pas spécialement, par exemple, les mélanges de couleurs, c'est elle qui me les préparait, je les préparais pas. Donc, du coup, comment je pouvais savoir qu'en mettant tel ou tel numéro, ça pouvait donner tel résultat?
Oui.
Donc, du coup, il y avait enfin, ça. Et pareil, au niveau des coupes, bah, je me rappelle, bah, justement, elle me disait, bah, vas-y, fais le carré plongeant à la cliente. Je dis, bah oui, mais je sais pas faire. Bah, c'est pas grave, tu sais faire quand même.
Ah
Du coup, il y a
oui,
un petit
ouais.
moment de, bah, non. Du coup, ça me mettait en état de stress. Et en plus, c'est comme ça qu'on peut faire des bêtises et se tromper. Mince, comment on tient mon doigt, après on est perdu, on tient mal le
Et c'est une
ciseau.
responsabilité face à la clientèle, à la cliente,
Bah, c'est ça, parce
finalement.
que, enfin, faut quand même, enfin, je veux dire, les cheveux, c'est quand même quelque chose que les clients s'attachent, donc si on les loupe, bon,
C'est
c'est
ça.
un peu compliqué. Donc, vrai que là-dessus, c'était bah, c'était un peu compliqué. Puis, il y avait eu, bah, pour l'après-Covid, où j'avais fait des horaires à rallonge, donc ça m'a un peu dégoûtée. Et on enchaînait les clients, mais. En fait, enfin, je m'entraînais toute seule. Par exemple, tout ce qui était dégradé américain, vu qu'elle ne le maîtrisait pas, c'est moi qui le faisais.
Ok, carrément.
Et donc, du coup, j'apprenais parce que du coup, je regardais tout ce qui était vidéo sur YouTube, etc. Et c'était pareil pour les balayages.
Donc t'étais totalement autodidacte en
C'est
fait.
ça, j'étais un peu autodidacte. Il y avait le souci, c'est que j'étais gauchère et droitière, ambidestre.
Ok.
Et en fait, quand j'étais en CFA, on m'avait donné un ciseau de gaucher où je pouvais m'entraîner à couper de la main gauche. Et je réussissais à couper les cheveux de la main gauche comme je pouvais réussir à couper de la main droite. Du coup, ça leur posait problème pour eux, pour m'apprendre à enfin, avoir des meilleures positions
Ah oui.
pour éviter justement d'avoir les bras trop levés, etc. Donc du coup, ça leur posait problème. Par exemple, je mettais ma tablette de produit du côté inverse, chose que je ne me rendais pas compte. Où elle me disait, bah, Nel, tu tiens ton sèche-cheveux à l'envers. Et en fait, mais soyez logique. Je dis, mais si je le fais comme ça d'instinct, c'est que dans ma tête, ça me paraît logique. Donc, du coup, c'est là où ça a posé problème. Donc, du coup, je pense que c'est dit, bon, bah, vu que j'arrive pas à lui trouver des meilleures positions, je vais la laisser un peu comme ça. Et c'était pareil pour les balayages. J'apprenais, on a de la chance au CFA, on apprenait quand même des techniques, mais c'est pareil. Enfin, heureusement qu'il y avait vraiment Instagram et YouTube pour vraiment me montrer comment fallait faire. Même là, ça m'arrive encore de couper les cheveux. À ma mère, et je suis toujours avec mes livres de coupe à détailler tel mouvement. Si je fais ça, j'ai tel résultat. Là, tu veux ça dans la nuque, donc du coup, il faut que je mette des ciseaux comme ça.
Oui, ça
Enfin,
en devient de la théorie
c'est ça. Du coup,
calculée.
et pareil, ben, au CFA, c'était pareil. En fait, le truc, c'est que je sais que j'ai des capacités, mais qui n'ont pas été exploitées. Par exemple, je savais faire un dégradé américain juste avec mes ciseaux sans l'utilisation de la tondeuse.
Ok.
Et bah après, c'était une prof du coup qui m'avait dit, bah, Nel, t'as vraiment un bon coup de peigne-ciseau, donc du coup, que c'était très bien. Donc, je savais que j'avais les capacités. Et pareil pour les balayages, parce que malgré que bah, j'ai pas spécialement appris toutes les nouvelles techniques, quand je m'entraînais sur des copines, généralement, les résultats étaient quand même assez beaux, juste parce que j'aimais bien, moi, les résultats fins, etc. Et donc, du coup, bah oui, j'ai un peu appris. Après toute seule, et ce qui était compliqué pour moi, c'était la gestion du temps, parce qu'elle, c'était peu importe des cheveux courts, épais, fins, c'est 30 minutes, c'est 30 minutes, alors qu'un cheveu épais, ça demande beaucoup plus de temps.
Bien
Et
sûr.
suivant ce que la cliente souhaite, le résultat, il ne faut pas qu'il soit la même chose que la cliente d'avant, parce que c'est pas ce qu'elle a demandé. Donc j'avoue là-dessus, moi j'avais de la chance, c'est que les clients étaient plutôt de mon côté. Il y avait une cliente, je faisais un balayage et la patronne, elle me mettait tout le temps sur minuteur.
Ah oui, carrément. Ah, c'était complet, c'était militaire, hein.
c'était pour le temps. Et du coup, j'avais dû dépasser le temps. Et puis, bah, ma patronne dit, bah, Anaëlle, il faut que tu te dépêches, quoi. Donc, et la cliente, elle dit, non, mais je préfère que ça soit parce qu'au moins, c'est bien fait et elle prend son temps. Donc, du coup, je dis, bon, bah, ça me rassure d'un côté, quoi.
Ouais, quand même le client s'immisce dans ton
C'est
apprentissage
ça.
en fait.
Mais c'est vrai qu'après, bah, on teste un peu nos points forts. Moi, je savais que mes points forts, c'était les shampoings. Et c'était comme ça que je pouvais fidéliser, on va dire, la clientèle. Et même l'employé et ma patronne me donnaient les clients. Comme ça, je les détendais au shampoing et comme ça, après, ils étaient beaucoup plus réceptifs après au niveau de la coupe.
C'est toute une stratégie, en fait.
C'est ça. J'ai même les clients avec du bouche à oreille. Ah, la jeune apprentie, elle fait des bons shampoings. Même des personnes qui ne se dépassent de se faire coiffer par des apprentis parce que ça arrive. J'arrivais au moins à avoir le shampoing. Donc, du coup, j'étais quand même assez contente. C'est du shampoing. Des fois, ça passait juste... je vais juste vous faire le brushing, mais juste la nuque. Et ma patronne revient, elle va vous faire le devant. Ça serait comme d'habitude.
Et B, tu pesais le game dans le shampoing.
Dans les massages.
C'est hyper drôle. Et t'as dit en début d'interview que tu étais étudiante entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en parler plus, notamment de ton projet entrepreneurial en deux mots?
Oui, du coup, en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu entreprendre. Il faut savoir que quand j'étais toute jeune, je voulais avoir un salon de coiffure. J'avais même trouvé le nom, je voulais l'appeler Chic et Choc. Quand j'étais petite, ça a toujours été... J'ai toujours voulu avoir mon propre...
Et pourquoi Chic et Choc? Parce que généralement, je dis ça, mais les salons de coiffure, ils ont toujours un jeu de mots avec les cheveux, air, les trucs comme ça.
Je ne sais pas du tout, mais le pire, c'est que j'avais vu un livre où c'était marqué Chic et Choc. Et mes parents, ils me disaient, Anaël, quand on rentre dans ton salon, c'est chic, et quand on voit le prix, c'est le choc. Je sais pas pourquoi, genre ça m'est venu, je dis ça sonne bien, chic et choc.
C'est hyper drôle.
Et du coup, j'ai toujours voulu avoir mon propre truc. Et après, c'est un peu. Enfin, comme je disais tout à l'heure, il y a eu un long moment où je voulais travailler dans l'artistique. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas directrice artistique, etc. Et puis, du coup, plus ça allait et plus je me suis rendu compte que j'aimais bien toutes les matières scientifiques, la techno, la biologie, et que, du coup, un peu moins la pratique, du coup, due à l'apprentissage, etc. Et vient le moment où du coup mon père me pose une problématique au niveau de son cuir chevelu. Et en fait on ne trouve pas de produit adapté, il m'a dit t'as qu'à le créer. Et donc du coup c'est comme ça qu'il m'a venu l'idée de créer des produits du coup, dans le monde de la coiffure. Et dû justement au fait du coup d'être toujours en contact de la clientèle, j'écoutais leurs problématiques capillaires au quotidien. Et je me suis dit, il y avait vraiment quelque chose à faire au niveau du cuir chevelu. Et surtout le fait de traiter le problème directement à la base. Mmh. Et parce que ça m'arrivait de conseiller des produits et les gens disent, j'ai le cheveu qui graisse, j'ai déjà testé ça, mais est-ce que vous avez autre chose à me proposer? Et là, du coup, ça devient plus compliqué parce que les choix sont un peu plus restreints. Et du coup, après, ils disent, j'aime pas les textures, ça, j'aime pas la marque, ça, j'aime pas. Donc, du coup, je me dis, OK, il faut vraiment trouver une marque du coup dédiée au cuir chevelu, tout ce qui va être protecteur du coup au niveau du cuir chevelu.
Ah ouais, donc toi tu étais vraiment vraiment avec les clients, avec eux dans la démarche de trouver déjà les problématiques qu'ils avaient et de trouver une solution aussi avec eux en fait. Donc c'était vraiment un travail, tu avais la chance du coup d'être vraiment avec ta clientèle pour le coup. Oui. Et de travailler en symbiose avec eux quoi.
C'est ça, mais je sais pas si ça aidait le fait du coup que j'étais douée au shampoing, mais c'est vrai que du coup quand après les gens ils passaient au bac à shampoing, enfin au bac de coiffage, ils me posaient plus naturellement des questions sur leurs cheveux.
D'accord.
Sur le soin de leurs cheveux. Ou justement le fait d'avoir un cheveu, une coiffeuse qui a quand même un cheveu brillant, etc. Les gens disent tiens, tu utilises quoi comme produit? Donc, du coup, généralement, on leur conseillait une routine capillaire adaptée. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est vrai que j'aimais bien quand, par exemple, il y avait des hommes et que je passais un coup de tondeuse et que je me rendais compte qu'il y avait un petit peu de psoriasis ou des pellicules. Et juste leur dire, faites attention, essayez de trouver un produit adapté. Peut-être que c'est le gel, peut-être qu'il y a eu du stress. Et des fois, tout naturellement, les gens disent, oui, c'est vrai, j'ai déménagé, je suis passée d'une ville à une ville un peu plus côtière, l'environnement, il n'est pas le même. J'ai eu un choc dans ma famille, j'ai beaucoup de stress en ce moment. Donc du coup, ça se ressort au niveau du cuir chevelu.
Ouais.
Parce que dès qu'on ne va pas bien à l'intérieur, c'est le cheveu qui prend tout.
Ça se reflète au niveau de la chevelure.
Ça se reflète au niveau du cheveu. Et pareil, moi-même, je me dis, c'est bizarre, pourtant j'ai la bonne routine capillaire, je fais bien mon shampoing et tout. J'ai les bonnes techniques un peu énergiques et un peu plus doux pour... Et je me dis, mais c'est bizarre, mon cheveu, il graisse toujours. Et donc, du coup, j'ai dû creuser. Je me dis, mais c'est peut-être hormonal. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des hormones pour éviter qu'au niveau de mon cuir chevelu, ça se régule, etc.
C'est vrai.
Et il y avait une fois aussi une personne âgée. En fait, je le coiffais. Il m'avait alarmé en disant, Mais attention, j'ai ce qu'on appelle une séborrhée, donc c'est une surproduction de sébum. Et en fait, il y a des grosses pellicules jaunes. Et du coup, lui, il avait honte, du coup, parce que forcément, quand on allait coiffer, on allait forcément avoir les pellicules. Et forcément, quand on passe le peigne, ben, on a dans le peigne. Donc, je pense qu'il se sentait aussi gêné vis-à-vis de ça. Donc, du coup, je ne m'étais pas alarmée plus, parce que je sentais que ça le... que c'était quelque chose qui... enfin, qui le gênait, et qui, pourquoi, au bout de ma dernière année, il dit, bon, bah, vous savez, ma séborrhée, ça fait en gros que c'était vraiment un problème pour lui, que par exemple, quand il dormait, sa tête d'oreiller, elle était toute jaune,
ah ouais.
Que vraiment, bah, ça peut être odorant, c'est luisant, il dit, ce produit-là, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous avez d'autre au salon? Je dis, bah là, il faut quand même aller peut-être en pharmacie trouver, parce que nous, on va avoir des shampoings pour cheveux gras, mais ça va pas être suffisant ouais. Pour vous.
Bah là, c'est une problématique liée à, enfin, de santé, donc faut voir un dermato.
C'est ça. Et c'est là où je me suis dit, oui, mais du coup, il y a qu'un produit qui existe sur le marché, ça lui convient pas, donc peut-être trouver d'autres produits qui peuvent le convenir, parce que d'une personne à une autre, pour qui, pourquoi le shampoing il va fonctionner sur l'autre personne pas ouais. Du tout. Donc du coup, je dis, bah, soit ça peut être le produit de substitution ou le produit que les personnes, du coup, s'il n'existe pas, ont.
D'accord, ok. On va faire des produits un peu de transition médicaux slash bien-être, quoi.
Oui, c'est ça, coiffure. Voilà. Des produits qu'on peut utiliser en salon de coiffure, c'est et ça. Des produits qui sont un peu plus médicaux. Et c'est là tout le problème dans, du coup, ma gestion de projet, parce que du coup, je suis un entre-deux. Et donc, du coup, il va falloir savoir qu'est-ce qui peut être mis en salon, qu'est-ce qui ne peut pas être mis en salon, qu'est-ce qui peut...
Ça va jouer sur la formulation, comme tu l'as dit, en fait, au niveau de certains ingrédients, on peut avoir, comment expliquer, ce que tu disais, que les coiffeurs, ils avaient le droit d'utiliser certains produits parce qu'ils avaient tel ingrédient qui était sous... tel taux de...
Oui, bah pour la permanente.
Voilà, par exemple. Donc en fait, toi, ça va être exactement pareil. C'est-à-dire que le lien entre un médicament et un produit de coiffure, ça va être aussi le taux de grammage qu'il y a des produits à l'intérieur.
Ouais, c'est ça, le choix des actifs.
C'est ça.
C'est vrai que j'ai revu mes cours de cosméto parce que du coup, j'étais un peu coincée entre les deux.
Ouais.
Et c'est vrai que c'était bien marqué. Même mon prof de biologie me l'avait dit. En coiffure, on peut traiter, mais on ne peut pas soigner.
Ouais.
Donc on peut traiter un cheveu gras, on peut traiter un cheveu pelliculé.
Oui.
Mais les psoriasis et les machins, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que suivant ce que c'est, ça rentre vite dans le domaine du médical.
Mm-mm.
Donc du coup, c'est là où ça va être ma limite.
C'est la limite, ouais, voilà. Mm-mm. Ok, ça marche. Et comment tu concilies ton projet et j'allais te demander tes études, mais finalement, tu disais qu'à côté, tu travaillais pour justement subvenir et peut-être investir aussi dans ton projet.
Oui, mais du coup, la gestion était un peu compliquée. Au tout début, je voulais travailler directement en laboratoire parce que du coup, avec le BTS, on peut, mais on ne peut pas faire non plus toutes les tâches, mais on peut faire certaines tâches, on va dire.
En laboratoire de cosmétiques, par exemple ?
Oui, c'est ça.
Ok.
Ouais. Et parce qu'on a des cours de cosméto, on voit tout ce qui est panel utilisateur, on voit tout ce qui est fiche produit, procédé d'utilisation et ce genre de choses. Donc du coup, on peut quand même travailler dans ce secteur-là. Et le souci, c'est vraiment des horaires de journée.
Mmh.
Et j'avais peur de m'engager dans une entreprise et leur dire, je suis désolée, mais là, je ne peux plus travailler pour vous. En fait, je ne voulais pas avoir d'attachement à une entreprise et d'un engagement dans une entreprise. Même pour le patron, je trouve que c'est un peu limite de dire, je suis venue avec vous juste parce que j'avais besoin d'argent à ce moment-là et que j'ai pas trop le choix, mais maintenant, c'est bon. Donc,
ouais.
C'est un peu compliqué.
Mmh.
Et c'était aussi surtout dans la... fallait que je sois... que j'ai des horaires un peu plus malléables. Donc, du coup, j'ai renié du coup, ce que j'aimais pour travailler du coup, dans un job alimentaire. Mais pareil, c'est un peu des fois compliqué avec le fait de commencer de bonne heure ou ce genre de choses.
Mmh.
Mais j'essaye quand même à tout gérer, on va dire, de faire la part des choses. Comme là, par exemple, je sais que le jeudi, je suis à Rennes. Bah, j'ai demandé à ne pas travailler le jeudi. Que le jeudi, je sois en repos toute la journée.
Ça t'adapte, en fait, les horaires en fonction de tes prérogatives pour mener ton projet au mieux, en fait.
C'est ça. Et je reste toujours dans mon secteur, vu que mon projet, c'est quand même le secteur dans lequel j'ai étudié. Et ça ne m'empêchera pas. J'ai toujours mes têtes à coiffer dans mon placard. Si j'ai un besoin de ressortir ces têtes à coiffer et de m'entraîner à les coiffer. Et pareil, quand je regardais les visuels, c'est vrai que tout le côté coiffure m'attire énormément. Et du coup, quand je vois les visuels, je me dis, ah ouais, moi, je peux m'entraîner aussi à faire des petits visuels, à m'entraîner à faire certaines techniques et tout. pour après passer une tête à coiffer, un modèle physique quand même, pour après faire les, tout ce qui va être les, bah, dans la communication, le marketing, ce genre de choses.
En fait, plus tu parles et plus je me dis, mais d'un job, en fait, ça t'est venu une passion, la coiffure.
Oui, c'est ça, ouais.
Genre, tu vas pas te contenter juste de coiffer, tu vas vraiment voir le côté spectre large de faire au mieux pour, bah, tu as évoqué le bien-être pour la cliente ou le client, mais aussi lui faire une coiffure qui irait à sa chevelure, lui dédier des produits pour justement traiter et pas soigner bah, des complexités en fonction de sa chevelure, pareil, etc. Donc en fait, tu as ce spectre hyper large que tu disais au début, ouais, de la coiffure avec tous les métiers que tu... Voilà, un peu moins l'artistique, tu le disais.
Oui, bah après, c'est vrai que l'artistique, ça m'attire quand même toujours.
Ouais.
Il y a toujours cette envie dans le cinéma, etc., parce que c'est vraiment, ouais, un truc qui m'attire. J'ai eu cette chance d'être figurante, et du coup, d'avoir pu échanger avec une coiffeuse, c'était un peu le but. À défaut, du coup, de pouvoir coiffer dans le cinéma, j'ai pu au moins voir comment ça se passait à l'intérieur, notamment puisque c'était un film d'époque, fallait qu'on se coupe, enfin qu'on se coiffe du coup avec l'époque, et donc du coup j'ai pu discuter avec ces, bah, avec ces coiffeuses quand je me faisais coiffer, et du coup c'est vraiment très intéressant parce que du coup je touchais un petit peu du coup le secteur qui me faisait de l'œil.
Ouais.
Après le cinéma c'était un peu le truc caché, enfin c'est jamais, enfin je veux dire c'est toujours mieux de dire oui je veux être coiffeuse dans un salon de coiffure que de dire que je veux être coiffeuse pour,
bien
les,
sûr,
pour les célébrités ou pour le cinéma.
C'est vrai,
pour,
ce que j'allais dire là, pardon, pour les célébrités effectivement, bah Paul Duchemin là qui coiffe les stars sur le de nombreux tapis rouges, ça te dirait pas?
Bah au tout début oui, mais c'est vrai que ça demande une exigence.
Ouais.
Et bah, c'est vrai que je pense que c'est des personnes qui des fois n'ont pas le temps ou ce genre, qui sont tout le temps pressées ou ce genre de choses. Et c'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'il faut quand même être fort, je pense, mentalement. Et c'est vrai qu'ils se sont mis à la lumière. Donc si ta coiffure elle est loupée et que tu t'en trouves dans un magazine, ah t'as vu sa mise en beauté, elle était pas belle, etc. Ça ne l'a pas mise en avant. C'est toi qui vas te prendre un coup. Et c'est surtout qu'ils ont des délais. Par exemple, dans les défis de mode, ça va hyper vite. Et donc du coup, je me dis, oui, moi déjà de base, je suis un peu lente, ça va être un petit peu compliqué, donc me mettre ça de côté. Mais sinon, il y a les personnes qui font tout ce qui est des formations en perruquier posticheur.
C'est quoi?
Du coup, c'est les formations pour faire les perruques, pour justement, du coup, le cinéma, les comédies musicales,
okay,
ou ce genre de choses, dans l'artistique. Mais c'est une formation qui est vraiment à part.
Ok, et ça te dirait pas...
Bah au tout début j'ai hésité, mais c'est pareil, il y avait très peu d'écoles en France. Mm-hmm. Et après bah en fait on me dit ah oui bah faire un BP, donc du coup je suis partie un peu là-dedans.
Okay.
Mais du coup j'étais un peu déçue parce que pendant très longtemps c'était vraiment le cinéma, pendant un bout du lycée je dirais, jusqu'à moi ma mention, jusqu'à ce qu'au moment où je rentre dans l'apprentissage. Donc je suis contente d'avoir pu toucher un petit peu ce milieu de loin et d'avoir vu comment ça se passait, toutes les retouches qu'il y a entre chaque prise, etc. Oui. De voir que bah, l'actrice principale, elle devait se lever à 4h30 pour réaliser la coiffure,
oui,
alors que le tournage, il commençait à 9h. Donc du coup, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et au niveau des époques, il fallait absolument que la coiffure colle.
Oui.
Moi, j'avais fait des essais et au final, quand j'ai arrivé sur le tournage, toutes les filles avaient la même coiffure. Pour justement, parce qu'ils voulaient quand même qu'ils aient une belle vue d'ensemble, on va dire, quand on regarde le film, que bah, les yeux ne soient pas éparpillés. C'est vrai qu'on avait tous à peu près les mêmes couleurs dans le costume, et on avait toutes la même coiffure.
Ah oui, donc c'est même travaillé au niveau visuel. Et je vous invite à ceux qui nous écoutent là, à voir bah, les Bridgerton, un beau film d'époque aussi, et vraiment à vous focus juste 30 secondes sur les coiffures qu'ils ont.
Ouais.
Bah, on peut parler du stylisme aussi, mais là on est sur la coiffure, mais ils ont des coiffures de dingue quoi.
Oui, c'est
et
ça.
Tous ont une coiffure, je sais pas combien ils sont, mais c'est aussi un gros travail en termes de mise en beauté, comme tu disais, pour bah, les genres de cinéma comme celui-là.
Mais c'est ça, puis suivant les techniques, ça va ramener à une certaine époque, soit les années 70, soit les années... Enfin,
ouais,
voilà, c'est en fait chaque technique va ramener, enfin je me rappelle, enfin nous les années 2000, c'est la fameuse teen mèche avec un petit mascara bleu ou violet qu'on mettait des fois juste sur une teen mèche de cheveux avec les cheveux bien lissés, avec vraiment les mèches bien contrastées, alors qu'après il y a eu les boucles bien serrées, bien à l'anglaise, et là maintenant nous on est sur du wavy, on est sur des trucs beaucoup plus larges.
C'est vrai, mais ça change hyper vite, on se rend pas compte. C'est pour ça que je t'ai posé la question de ouais, bah dans 10 ans comment ça se passe. Et en fait c'est la mode, c'est comme de la mode.
C'est ça, comme le mulet pour les hommes quoi, c'est
ouais,
pareil. Alors qu'avant c'était un peu le truc, ah un mulet.
Ouais, exactement.
Alors que maintenant, enfin les techniques, maintenant un mulet c'est quand même beau, enfin même à le faire c'est quand même une bonne technique, donc du coup c'est bien de moderniser un petit peu pour enlever ce petit côté un peu vieillot qu'il pouvait y avoir avant.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et où en es-tu du coup dans le développement de ton projet actuellement?
Et bah du coup là faut que je rencontre des experts parce que du coup comme j'ai dit je suis coiffeuse mais je suis pas dermatologue donc c'est là ma limite. Et du coup là j'ai pu échanger avec une cosmétologue déjà et je vais normalement avoir une expertise avec des chefs de produits en formulation. Faut que j'aille voir du coup les groupements de pharmacie pour pouvoir distribuer du coup mes produits et savoir comment ça fonctionne pour rentrer du coup dans leur rayon en fait.
Dans leur game.
C'est ça. Et après du coup ça va être réalisation du cahier des charges, puis lancement de la R&D avec le choix d'un laboratoire.
Ok, donc plein de beaucoup, enfin plein de belles choses qui arrivent.
C'est ça.
As-tu là jusqu'à maintenant des obstacles ou des difficultés à mener ton projet?
Les obstacles, je dirais que c'est la rencontre avec les gens, et c'est là où ça peut paraître paradoxal parce que du coup j'ai toujours été au contact avec les gens, mais je dirais que c'est le contexte en fait, parce que du coup quand j'étais en salon de coiffure ça me venait naturellement de discuter avec les gens, et dans la vie personnelle c'est un peu plus compliqué, donc du coup c'est là où c'est tout le paradoxe. C'est pas parce que de base on n'est pas très social que dans le milieu de la coiffure on ne peut pas l'être, enfin ça s'acquiert.
Et ça va avec la posture aussi comme tu
c'est
disais.
C'est ça, ça va avec la posture, et je pense que là ça me... Donc, je dirais que ce qui me fait peur c'était plus la réaction des gens.
Ouais.
Qu'on me dise non c'est nul.
Ah oui.
Et ce genre de choses. Et de me remettre dans une situation d'inconfort où on m'a déjà fait sentir dans ce contexte-là, en fait, ça m'a déjà fait sentir que j'étais nulle. Donc du coup, je pense que quand je vais voir les gens, c'est ça qui me freine, qu'on me remette dans la situation que je n'aimais pas. Et quand je devais aller voir la dermatologue, je suis restée bloquée à la porte et j'ai pas pu la franchir.
Ah ouais.
Et donc du coup, je pense que c'est là où pour moi ça me pose problème, parce que du coup, elle est vraiment à la rencontre des gens. Ça me demande un effort. Tant que l'échange n'est pas programmé, ça va me demander un effort. Comme là, par exemple, j'ai pu pitcher avec la French Tech Tremplin. C'est quelque chose qui m'a demandé un effort. Mais vu que c'était programmé, etc., que c'était dans le cadre du coup de la French Tech, ça ne m'a pas spécialement posé de problème. Mais là, c'est de moi-même à aller voir les gens. Et là, pour moi, c'est de... On va dire c'est compliqué. Les mails, maintenant, ça va. Et s'ils ne répondent pas, je dis « Ah bon, ça va, il ne m'a pas répondu. Bon, c'est pas grave, je peux laisser un petit peu de temps. » Puis plus ça va, je dis, ah bah finalement, j'ai pas eu de réponse, il me faut absolument une réponse, donc il va falloir les téléphoner, et là c'est un peu plus compliqué. Donc je dirais, ouais, les blocages, c'est vraiment ça.
Ok, ça marche. Et juste pour un peu rationaliser tout ça, finalement, bah, tu disais que t'étais bloquée à la porte, mais t'as réussi à aller jusqu'à ce gel quand même.
Oui, c'est ça.
Donc,
Moi, j'étais déjà contente quand je suis rentrée dans ma voiture. J'ai dit, bon, bah, après, au moins, tu t'es déplacée. C'est déjà ça, tu l'as fait. On t'a dit qu'il fallait aller le voir. T'as été le voir, t'as pas franchi la porte, mais t'as été quand même.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il faut absolument que j'arrive à décoincer ce truc-là, parce que du coup ça peut m'empêcher de faire plein de choses dans l'entrepreneuriat, parce que c'est un peu le but d'aller au contact avec les gens. Donc du coup
surtout au début il faut démarcher, prospecter, demander les besoins, voilà. Oui, là, je comprends totalement.
Mais je dirais aussi c'est des fois on est un peu bloqué et au final on a la solution mais on se la met pas, on sait ce qu'il faut faire mais on essaye de trouver un moyen pour ne pas le faire. Je sais pas si c'est...
Si, je vois exactement. Bah, là, par exemple, si tu pouvais faire autre chose que demander au cosmétologue quelque chose, etc., bah, tu l'aurais fait, quoi.
C'est ça. On a la solution, mais en même temps, on préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui nous la dise que c'est nous.
Bien sûr.
C'est ça qui est des fois un peu compliqué. J'étais restée bloquée. Quand j'ai intégré la prépa FNCHEC, je savais qu'il fallait que j'aille en contact avec les gens. Mais le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui me le dise réellement... Bah, c'est là où j'en ai pris le plus conscience, et surtout que j'ai su qui je devais contacter et quels sont les sujets que je devais aborder avec ces personnes. Parce que je savais qu'avant, j'allais un peu aller à l'aveugle.
Ouais.
Alors que là, je sais que je vais pas aller à l'aveugle parce que je sais les réponses qu'il me faut.
Ok. Bah, hyper intéressant. Bah, tu progresses petit à petit dans ton projet. C'est hyper intéressant. Même, voilà, je t'ai posé la question des obstacles, des difficultés. Et en fait, ça en ressort que du positif finalement parce qu'on se remet en question. Et c'est tout aussi l'enjeu de l'entrepreneuriat, je pense. Et à contrario, justement, as-tu des aides ou des facilités sur certains domaines pour mener ton projet?
Bah, du coup, je dirais que les facilités, bah, là, on me l'a fait remarquer du coup hier quand j'ai pitché, c'est que je maîtrise mon milieu et je maîtrise mon domaine. Et donc, du coup, on peut plus facilement me faire confiance parce que je maîtrise ce qu'on me dit.
C'est vrai.
Et le fait d'avoir toujours été au contact avec les gens et de leur demander leurs problématiques capillaires et de les conseiller, bah, ils savent que derrière, je peux facilement créer pas un produit, mais plusieurs produits. Donc du coup, je dirais que ça, c'est une facilité pour moi. Et le fait que le problème vient d'une personne de ma famille, j'ai mon persona dans mon cercle proche. Du coup, je peux facilement les interroger et comprendre la manière dont eux, ils fonctionnent pour trouver le produit adapté à leurs besoins.
Ouais.
Du coup, pour moi, je dirais que ça, pour moi, c'est une, on va dire, c'est une force que je ne me rendais pas compte au tout début, mais qu'on me l'a fait remarquer quand je pitchais. Parce que j'avais un temps de 5 minutes, j'ai fait 8 minutes et j'ai pas entendu la sonnerie. Et on m'a dit, mais t'es tellement passionnée, t'es tellement dans ton truc qu'en fait on t'écoute et on est très attentif à ce que tu dis, on te sent passionnée et on a envie de... Tu dis que là ton produit il sort, je vais l'acheter.
Ouais.
Et donc du coup je me dis, bon bah j'arrive à embarquer les gens avec moi sans que je m'en rende compte.
Et donner de la crédibilité du coup à ton produit.
Donner de la crédibilité, c'est ça, parce que bah, forcément... J'ai fait des recherches, j'ai quand même des termes un peu techniques. Et c'est surtout aussi que je ramène toujours le produit capillaire. En fait, qu'il faut que ça soit compatible avec tout ce qui est technique de permanente, de coloration. Parce qu'on tend à une cosmétique plus durable, naturelle. Et ce que j'entends et ce que je veux aussi. Mais le souci, c'est que des fois, bah, c'est pas très compatible avec la coloration et la décoloration. Et on peut avoir des surprises au bac à shampoing. Donc du coup, ils savent que bah, du coup, derrière, je suis capable de... Et je vais plus facilement savoir pour les tests qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment ça puisse fonctionner. Donc je dirais que c'est ça ma force, de maîtriser mon domaine.
C'est vrai, c'est vrai. Et juste petite anecdote avant de repasser à la dernière question, c'est ce que tu disais là, c'est que je vais prendre l'exemple de ma mère, c'est une anecdote, c'est que elle s'est fait beaucoup de coloration bah, chimique, etc. Et puis elle s'est dit bah je vais repasser au henné, ce qu'elle faisait quand elle était jeune. Et en fait on lui a dit fais pas du tout ça, faut attendre je crois un délai de un an et demi, je sais plus, le temps vraiment que ça parte le truc chimique quoi. Et donc vraiment faites attention à vous si
oui,
vous souhaitez changer, swiper, si vous faites ça chez vous, faites attention, toujours prendre conseil chez
quoi faire.
Exactement.
Et c'est nous justement là par rapport au fait d'ouvrir les salons, c'est que nous nos patronnes, elles ont eu des expériences, des mauvaises expériences au salon. Et pareil, quand on est en apprentissage, pareil, il y a toujours la prof qui a une anecdote à nous raconter. Et c'est comme ça qu'on sait généralement que tel produit, il ne faut pas utiliser.
Bien sûr. Ouais.
Et quand on rentre en CAP, je me rappellerai toujours à chaque fois du test, c'est qu'on prend une mèche de ciseaux, on gratte notre cheveu. Et s'il y a des pellicules blanches, ça veut dire que le cheveu, il est siliconé.
C'est-à-dire quoi, silicone?
Il est bourré de silicone. C'est-à-dire qu'en fait, ça va englober le cheveu, mais ça nourrit pas le cheveu en profondeur. Ça forme une pellicule. Et c'est, du coup, comme le henné, par exemple, tu disais, certains hennés vont former une pellicule sur le cheveu.
Ouais.
Et du coup, d'un coup, la personne dit, bah, tiens, je vais faire une permanente. Et là, d'un coup, par contre, elle peut se retrouver chauve. Donc, passer du henné à une permanente, elle peut se retrouver facilement chauve. Donc, c'est toute la complexité du fameux diplôme. C'est que nous, on sait réellement les dangers qu'il peut y avoir. Et du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les produits.
C'est clair. Donc, la dernière question, c'est quoi la suite pour toi, tout simplement, concernant ton projet la suite, c'est quoi?
Du coup, la suite, j'aimerais bien quand même... au-delà d'un simple produit, c'est de développer une marque de produits capillaires. C'est vrai que le rêve ultime, c'est de voir mes produits utilisés en salon de coiffure, en prestation, en bac à shampoing, en soins, en rituel, on va dire, avoir leur petit rituel dédié à leur cuir chevelu. De rester quand même dans le milieu de la coiffure et toujours quand même cette partie artistique qui me manque un petit peu, que j'aimerais bien toucher, c'est quand même dans les visuels. Quand je vois par exemple le mondial de la coiffure, les shows coiffure, c'est des choses qui donnent envie, donc du coup pourquoi pas aller là-dedans. Mais après je sais que par exemple, les profs m'avaient dit que j'avais des capacités pour être prof ou pour transmettre. Donc, après, je pourrais être formatrice si jamais ça ne fonctionne pas. Une petite roue de secours.
Oui, et puis la carrière est longue. Hein.
C'est
une
ça.
Vie est longue, donc tu pourras toucher à tout.
Puis quand on voit une marque de produits capillaires, ils forment les gens à utiliser les produits. Ils vont dans les écoles présenter les produits. Donc, c'est là où moi, je me rendais compte... comment ça se passait. Ils vont des fois au Mondial de la coiffure avec leur stand en présentant, en faisant des démonstrations. Quand on voit aussi sur les réseaux sociaux l'utilisation de certains produits, etc. Après de développer la marque dans d'autres pays. Donc c'est vrai que ça serait, ouais. Développer carrément la marque comme on peut voir d'autres marques. Comme les secrets de Loli qu'on voit bien oui. développer, L'Oréal.
C'est vrai.
C'est un peu le rêve.
Et ben, je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup à toi, Anaëlle.
Merci.
J'ai trouvé super intéressant des métiers de la coiffure, comme je te disais, qu'on n'aborde pas forcément directement en fait, en général, et en fait qui sont, comme tu l'as dit, tu t'adresses à un public large, à un spectre large. C'est aussi des domaines qui touchent un peu à tout. Et ça s'inscrit dans notre société. Donc hyper intéressant d'en connaître davantage avec toi. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi, Anaëlle.
Merci.
J'espère que ça t'a plu.
Oui, puis en faisant ça, c'est aussi mettre en avant un peu les métiers de l'artisanat.
Oui.
En fait, on ne se rend pas compte, mais quand vous voyez le coiffeur, le boulanger ou la personne, je ne sais pas, même dans le bâtiment ou autre, votre voiture, le carrossier, en fait, ce sont tous des chefs d'entreprise.
Oui.
Et pourtant, on a tous un CAP. Et pourtant, on est un peu dénigré juste parce qu'on a fait une filière professionnelle et qu'on n'a pas fait des grandes études. Et donc, du coup, ça remet un peu en cause nos compétences et nos connaissances. En fait, on se dit, il est parti dans une filière professionnelle parce que, il n'aimait pas l'école ici et ça, alors que c'est généralement des métiers de passion. Et du coup, on se rend compte que quand vous allez acheter votre baguette de pain, le boulanger, c'est un entrepreneur aussi. Et ça, franchement, il faut le mettre aussi en lumière.
Un
métier comme ça professionnel, voilà.
Je suis totalement d'accord, c'était le mot de la fin.
C'est ça.
J'espère que ça a plu aussi à vous, nos auditeurs. Et d'ailleurs, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez bien prendre 2 minutes pour nous dire ce que vous en avez pensé, on adorait connaître vos avis. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast car plein d'interviews de nos jeunes arrivent très vite. À plus.